Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Liselotte et je vous souhaite une excellente semaine. En Allemagne, un homme a utilisé des photos de sa compagne pour flirter en ligne avec d'autres hommes. Et maintenant, sa compagne se plaint de vols virtuels et réclame, avec l'appui inconditionnel des médias et du monde politique allemand, la fin de l'anonymat en ligne. Une demande qui pourrait avoir des répercussions sur toute l'Europe. Voilà, en quelques lignes, les contours de la sordide affaire dite Ulmen Fernandez, qui occupe une place notable dans les médias allemands. Ainsi, selon le récit, largement relayé par les principaux journaux et chaînes de télévision, l'animatrice et actrice Colleen Fernandez, également connue par sa parution dans des magazines glamour semi-érotiques, accuse son ancien conjoint, Christian Ulmen, acteur et producteur de télé-réalité, connu pour leur degré de provocation sexuelle, d'avoir commis pendant plusieurs années une série de méfaits numériques assez sordides. Ceux-ci incluraient la création de faux profils au nom de sa compagne et la diffusion d'images manipulées par deepfake afin de pouvoir se faire passer pour elle et entretenir des discussions érotiques et sexuelles avec des inconnus. Sans aucun doute, cette affaire illustre une évolution inquiétante de la criminalité numérique, rendue possible par les progrès rapides de l'intelligence artificielle, mais vu la constellation biographique, peut-on vraiment parler, comme le fait Fernandez, de viol virtuel et réclamer, comme elle le fait, la fin de l'anonymat en ligne? Car c'est justement là que ce fait divers devient non seulement intéressant, mais potentiellement explosif, y compris pour d'autres pays européens comme la France. Ainsi, comme par hasard, le même jour où l'affaire, dont les faits remontent d'ailleurs à quelques années, a éclaté et relayé très largement par les médias, le gouvernement allemand a annoncé la finalisation du texte du projet de la loi de protection contre la violence numérique visant à faciliter l'identification d'auteurs anonymes d'infractions en ligne et accélérer les procédures judiciaires. Les défenseurs de ce projet de loi se sont immédiatement emparés de l'affaire Ulmen Fernandez pour réclamer, avec le soutien public de la victime, un vote rapidissime afin de faire passer cette loi. De plus, de grandes manifestations de soutien à la victime sont en cours à Berlin et à Hambourg, regroupant de très nombreux personnages politiques, surtout des milieux de la gauche et des écologistes. Sans surprise, ce timing un peu particulier a soulevé quelques doutes sur certains éléments qui, sans invalider pour autant la réalité des accusations, méritent d'être examinés avec rigueur et sang-froid. Alors, la première interrogation concerne évidemment la chronologie. Selon les informations publiques, certaines suspicions ou incidents remonteraient à plusieurs années déjà et avaient été rendues publiques dans les médias déjà en 2024. Pourtant, depuis lors, les deux protagonistes auraient continué à apparaître ensemble dans des contextes professionnels et promotionnels comme si de rien n'était, y compris dans des campagnes commerciales et médiatiques, et auraient encore habité ensemble jusqu'à l'annonce de leur séparation en septembre 2025. Dans certains cas, des images ou mises en scène publiques laissent même apparaître une certaine proximité physique. Cette continuité intrigue. Si Fernandez a été tellement terrifiée par ce viol virtuel, comme elle le dit, pourquoi a-t-elle, à ce qu'il semble, continué à fréquenter son compagnon dans des contextes parfois même semi-érotiques? Cela ne prouve évidemment pas l'inexistence de faits problématiques, mais pour un observateur critique, la persistance d'une collaboration professionnelle prolongée soulève tout de même des questions légitimes sur le moment précis où une affaire ancienne devient soudainement un scandale national voire européen. Une seconde interrogation concerne le rôle d'organisations militantes spécialisées dans la lutte contre la soi-disant haine en ligne, notamment l'association HateAid. Il est bien établi que cette organisation milite depuis plusieurs années pour une réglementation plus stricte des contenus numériques dits de haine et pour une limitation de l'anonymat dans certains contextes judiciaires. Fernandez est une collaboratrice de HateAid, mais aussi de Correctif, la puissante ONG chargée de détecter des prétendues fake news en ligne et ayant produit elle-même toute une série d'accusations controversées contre des organisations conservatrices et des personnalités des partis patriotiques. Ce faisceau de relations n'est pas anodin. Le fait que la plaignante ait collaboré depuis longtemps avec ces deux organismes soulève une question délicate mais inévitable. Les milieux poussant la loi destinée à restreindre l'anonymat en ligne ont-ils saisi l'occasion d'une histoire privée complexe pour lui donner une dimension politique susceptible d'accélérer l'adoption d'un texte de loi attendu depuis longtemps, car il est bien connu que des initiatives législatives visant à renforcer l'identification des utilisateurs en ligne existaient bien avant la médiatisation de ce fait divers, et que l'affaire Ulmen Fernandez tombe à pic pour en illustrer la prétendue urgence. Une telle dynamique n'aurait d'ailleurs rien d'exceptionnel en politique publique. L'histoire récente montre que des événements particuliers, parfois dramatiques en effet, ont été instrumentalisés pour créer une fenêtre d'opportunité pour faire adopter des lois longtemps discutées déjà. Pensons seulement à l'instrumentalisation du tsunami de Fukushima pour faire arrêter d'un jour à l'autre l'ensemble des centrales nucléaires en Allemagne, ou à l'instrumentalisation de cas réels de pornographie enfantine pour tenter de faire abolir dans toute l'Europe le secret de correspondance des messageries numériques. Un troisième point, souvent évoqué dans les milieux s'opposant au nouveau projet de loi, concerne la perception d'une disproportion frappante entre la nature d'une affaire individuelle, aussi grave soit-elle, et l'ampleur des changements législatifs envisagés. En effet, il est frappant de constater que des crimes nettement plus concrets et physiquement destructeurs, comme les agressions sexuelles, qui sont en augmentation exponentielle en Allemagne depuis la crise migratoire de 2015, et donc l'ouverture des frontières à des millions de jeunes hommes musulmans, n'ont jamais conduit à des réformes sécuritaires concrètes, comparables au projet de loi virtuelle envisagé maintenant. Autrement dit, le fait divers sordide et somme toute peu spectaculaire d'un prétendu viol virtuel par deepfake est en train de devenir la raison principale pour la fin de l'anonymat en ligne, alors que des dizaines de milliers de vrais viols n'ont eu aucune véritable conséquence sur la politique de vérification identitaire de millions d'immigrés arrivant souvent sans papier. Et alors que les manifestations de soutien à Madame Fernandez trouvent l'appui inconditionnel de la gauche et des écologistes, celle-ci, donc ce soutien-ci, est rigoureusement absent des manifestations contre les vrais viols, d'ailleurs souvent interdites ou discréditées comme xénophobes. Ces interrogations ne doivent évidemment pas être interprétées comme une tentative de relativiser les souffrances psychologiques liées aux abus numériques. En effet, la réalité des réseaux sociaux et des technologies d'intelligence artificielle a profondément transformé la nature du débat public et des relations humaines. Et les campagnes de harcèlement en ligne, la diffusion de contenus falsifiés ou humiliants et la manipulation d'images constituent des phénomènes réels dont les conséquences peuvent être graves et durables. Et l'on sait que les dynamiques algorithmiques jouent un rôle déterminant dans la formation de bulles informationnelles, la radicalisation progressive des discours et la fragmentation croissante de l'espace public. Mais c'est précisément dans ce contexte que surgit la question la plus délicate. Comment agir sans affaiblir ce qui constitue le cœur même des sociétés libres? Car au-delà des aspects techniques du débat, une inquiétude revient avec insistance dans les milieux conservateurs et patriotiques, celle d'une possible asymétrie dans l'application future de ces nouvelles règles numériques. En effet, dans un environnement médiatique où des orientations intellectuelles de gauche dominent très largement les secteurs clés, notamment l'éducation, les médias de masse et la plupart des réseaux sociaux et des plateformes numériques, la possibilité d'une application sélective des normes n'apparaît pas entièrement théorique, tout comme il faudra s'attendre à ce que la levée de l'anonymat conduira une justice de plus en plus politisée à excuser les attaques verbales contre la droite comme devoir civique et les attaques verbales contre la gauche comme une incitation à la haine. Dès lors, une loi mal conçue ou mal appliquée pourrait très aisément produire des effets bien au-delà de son objectif initial, c'est-à-dire décourager la participation politique légitime, favoriser l'autocensure et réduire progressivement la diversité réelle des opinions. Ainsi, en conclusion, l'affaire Ulmen Fernandez dépasse largement le cadre d'un conflit privé amplifié par les technologies modernes. Elle pourrait devenir, rétrospectivement, un moment charnière dans l'évolution des libertés numériques en Europe. Derrière l'émotion légitime suscitée par des accusations graves, se profile en effet le risque d'un basculement juridique dont les conséquences dépasseraient de loin le cas individuel qui l'a déclenché. Car l'histoire montre que les restrictions introduites au nom de la protection des victimes ou de la sécurité publique tendent rarement à demeurer limitées. Elles s'étendent progressivement et deviennent des instruments durables, souvent bien au-delà des circonstances initiales qui avaient justifié leur adoption. Dans le contexte allemand actuel, Une limitation forte de l'anonymat numérique modifierait profondément les conditions du débat public, car elle n'affecterait pas seulement des comportements criminels, mais aussi des millions d'utilisateurs ordinaires qui pourraient être dissuadés d'exprimer des opinions sensibles par crainte de sanctions sociales ou professionnelles. Dans une société déjà marquée par une polarisation idéologique croissante, une telle évolution favoriserait mécaniquement l'autocensure et affaiblirait la diversité réelle des opinions. Et cette inquiétude devient particulièrement sérieuse si l'on considère le rôle que jouent aujourd'hui les réseaux sociaux pour certains courants politiques. Dans de très nombreux pays, Allemagne et France en tête, les médias traditionnels demeurent largement dominés par des sensibilités proches de la gauche ou de l'extrême-centre. Les plateformes numériques constituent donc souvent l'un des rares espaces où des voix dissidentes, notamment conservatrices et patriotiques, peuvent encore se faire entendre. Restreindre l'anonymat dans ces conditions reviendrait de fait, sinon d'intention, à réduire l'un des derniers instruments permettant de contourner ce déséquilibre structurel. De plus, il serait illusoire de croire que ces évolutions resteraient confinées à l'Allemagne. L'Union européenne tend à harmoniser rapidement les cadres juridiques et la France observe déjà avec attention les initiatives allemandes en matière de régulation numérique. Dans un climat politique marqué par la méfiance envers les réseaux sociaux, une législation restrictive adoptée à Berlin pourrait ainsi servir de modèle pour d'autres États, accélérant ainsi une convergence vers des dispositifs toujours plus intrusifs.
Ligne droite, l'analyse.
Et on poursuit avec Régis Le Sommier, qui est interrogé par Alexandre de Galzin.
Merci Liselotte, rebonjour chers auditeurs. Alors Régis, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta et aujourd'hui, eh bien, ce dont vous allez nous parler, c'est de Joe Kent et donc de ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de, du mouvement MAGA.
Alors je vais vous parler de Joe Kent, je vais vous parler de ce qui se passe aux États-Unis, je vous parlais aussi des divergences entre Israël et l'Amérique sur la question de la finalité de cette guerre. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors je commence par une citation justement de Joe Kent qui a surpris tout le monde quand il l'a faite. Elle est tirée de son communiqué de démission où il dit: je ne peux en conscience apporter mon soutien à la guerre en cours avec l'Iran. L'Iran ne présentait aucune menace imminente pour notre nation et il est évident que nous sommes engagés dans ce conflit sous la pression d'Israël et de son puissant lobby aux États-Unis. Alors, l'homme, pour le présenter, qui s'exprime ainsi, c'est pas n'importe qui, Joe Kent. Hein. C'est d'abord le bras droit de Tulsi Gabbard, qui est la chef du renseignement américain. Son rôle à lui, à Joe Kent, s'équivaut à celui du patron de la DGSE chez nous. Donc c'est pas rien, c'est tout le contre-terrorisme. Alors dans sa carrière, cet ancien béret vert, puis donc force spéciale issue des parachutistes américains, puis ancien paramilitaire de la CIA, il a été déployé 11 fois sur les théâtres de guerre depuis l'Irak et l'Afghanistan. On précise aussi que sa femme, Shannon Kent, travaillait comme cryptologue pour la marine américaine et elle participait à une mission de renseignement en Syrie lorsque son unité était l'objet d'un attentat suicide où elle est morte. Attentat suicide revendiqué par l'organisation État islamique le 16 janvier 2019. Alors que quelqu'un avec un profil pareil s'exprime de la sorte, c'est l'illustration véritable que la guerre en Iran aura provoqué des divisions profondes, non seulement au sein de la base de l'administration Trump, mais encore plus au sein de sa base MAGA. Alors, on peut même imaginer aussi qu'à la suite de Joe Kent, Tulsi Gabbard, elle-même connue pour ses prises de position hostiles aux interventions militaires, ne s'interroge sur son avenir dans l'administration Trump. Elle vient d'ailleurs de déclarer au Sénat américain un document écrit que, je cite, « l'Iran n'a pas essayé de relancer ses activités d'enrichissement militaire depuis l'attaque américano-israélienne de juin 2025. Elle contredit là ouvertement le discours de Donald Trump sur les objectifs contre Téhéran. » Alors, cette décision de partir en guerre, finalement, on se rend compte après, on est à plus de 3 semaines de conflit, elle apparaît vraiment sous un jour nouveau. Si en effet, le nucléaire avait été mis en avant par Trump lui-même pour la justifier le 28 février, les déclarations également mardi dernier d'un observateur britannique présent dans les dernières heures des négociations viennent encore plus jeter le trouble. Comme un écho aux propos du ministre des Affaires étrangères omanais, le médiateur des négociations, souvent Bader al-Busaidi, qui s'était quelques jours avant l'entrée en guerre rendu aux États-Unis et qui avait expliqué sur la chaîne CBS News qu'un accord était à portée de main. Eh bien, cet observateur britannique, ce diplomate, Jonathan Powell, confirme qu'il n'existait aucune menace imminente de l'Iran. Il explique dans les colonnes du Guardian que le deal possible avec l'Iran aurait été bien meilleur pour Trump que celui obtenu en son temps par Barack Obama, et ce diplomate confirme aussi que ce sont bien Steve Witkoff et Jared Kushner qui ont tout fait pour convaincre Trump d'entrer en guerre. Alors, Donald Trump, d'ailleurs, avait désigné son gendre lors d'une interview et son ancien associé dans l'immobilier comme ceux qui l'ont véritablement convaincu d'y aller. Et tant pis si le chef d'état-major américain, hein, on a oublié un petit peu, le général Dan Kane, avait averti la Maison-Blanche que frapper comportait des risques militaires majeurs, qui soulignait aussi le manque de munitions, d'intercepteurs, de soutien d'alliés. Il avait en outre prévenu que ça pourrait mettre les forces américaines en danger dans la région. Prémonitoire. Bref, depuis l'entrée en guerre, donc les critiques fusent chez les MAGA. Tucker Carlson, par exemple, sur la décision du président. On ressort aussi les vidéos très intéressantes de feu Charlie Kirk, qui aujourd'hui, vous savez, pour les MAGA américains, est le martyr de la cause trumpiste. Et voilà ce que disait Charlie Kirk. Le pire scénario, disait-il, c'est si l'Iran disait « Ok, vous nous avez humiliés, vous avez tué nos leaders, nous allons transformer tout ça en un chaos régional en impliquant le plus de gens possible. Nous allons cibler les Américains, les Saoudiens, impliquer le monde entier. » Et Charlie Kirk de conclure, nous ne voulons pas d'implication américaine, nous ne voulons pas de frappe, pas de soldats au sol, c'est la guerre d'Israël. Ça c'est Charlie Kirk hein, qui est mort quand même il y a plus d'un an. Mais au-delà des têtes d'affiche habituelles du monde des MAGA, il y en a un qu'on voit très peu depuis le début des hostilités, c'est évidemment J.D. Vance. Mmh. Pris au piège entre sa loyauté à Donald Trump, ses convictions anti-intervention mise à mal par la guerre et ses rêves de présidence en 2030 qui se verraient compromis si le conflit durait trop longtemps, le vice-président s'est exprimé qu'une seule fois à une chaîne de télévision américaine, mais il a plutôt botté en touche. Et Donald Trump aussi a été interrogé sur cette discrétion du vice-président. Alors il a expliqué que J.D. Vance était philosophiquement un peu différent de moi, précisant que face à un dossier délicat, il a ajouté aussi il était moins enthousiaste que moi à l'idée d'y aller, mais il était enthousiaste quand même. Bref, donc une seule interview, je l'ai dit. Il se dit d'ailleurs que qu'au Pentagone, de nombreux hauts gradés se demandent quelles leçons ont été apprises de 20 ans de bourbier d'Afghanistan et d'Irak, partageraient également les réserves de Vance sur ce conflit. Si le phénomène se confirmait, cela pourrait isoler davantage Trump, évidemment si ça tournait mal. Alors sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le tempo opérationnel a diminué chez les deux adversaires, hein. Même si il y a eu des frappes, même si ce matin encore Israël a renouvelé ses frappes sur des infrastructures aussi civiles iraniennes. L'Iran, par exemple, démontre chaque jour qu'il est toujours capable d'atteindre Israël. On l'a vu ce week-end avec la ville de Dimona et celle d'Arad. Dimona, on le rappelle, abrite une centrale nucléaire. Israël et les États-Unis avaient d'ailleurs dans la matinée frappé le complexe de recherche nucléaire de Natanz. Ce qui est très intéressant dans la séquence qui s'est produite ce week-end, c'est qu'à la différence des habituels adversaires sur le terrain des États-Unis, que ce furent les talibans, les insurgés irakiens, Daesh ou ceux d'Israël, le Hezbollah ou le Hamas, les Iraniens, eux, sont capables de répliquer, on va pas dire en faisant jeu égal, mais en tout cas, vous touchez au nucléaire chez nous, on touche au nucléaire chez vous. Ça reste un conflit asymétrique, mais la rapidité, la précision de la réplique pose question. Sans parler évidemment de la qualité des frappes faites par des missiles nouveaux, à longue portée. Par exemple, s'il s'avère que deux missiles ont bien été envoyés sur la base des B-2 américains à 3800 km de Téhéran, bah cela impliquerait que l'Iran est capable de frapper l'Europe. Alors, il faut quand même une certaine réserve sur cette information qui a beaucoup agité les rédactions ce week-end. Il s'agit d'une info américaine. On ne sait pas exactement d'ailleurs combien de temps, à quelle distance les deux missiles, il y en a un qui apparemment s'est abîmé en mer, mais combien de distance a-t-il parcouru on ne sait pas. Et le deuxième ayant été intercepté, on ne sait pas à combien de distance il a été intercepté de la base de Diego Garcia.
Et puis même sur l'élément que ça puisse frapper l'Europe, on va dire qu'il n'y a pas la même capacité antimissile entre Paris et Téhéran qu'entre Téhéran et une base navale au milieu de l'océan Indien aussi. C'est-à-dire que quand même, en Europe, on aurait eu énormément de boucliers antimissiles d'ici là et de capacités d'interception. Donc,
Y a plein de points qui sont, et encore une fois, rappelons qu'il s'agit d'une info américaine et qui n'a pas été étayée par plus d'informations. Alors Israël, lui, poursuit ses frappes, ses assassinats ciblés, en parallèle des frappes américaines, même si on a remarqué depuis un petit moment, les deux alliés présentent des stratégies qui divergent. Ainsi, l'élimination d'Ali Larijani, le chef de la sécurité iranienne, Israël a fait non seulement disparaître un adversaire redoutable, doublé d'un communicant hors pair, mais aussi elle a privé l'Iran du type de leader que Donald Trump cherchait pour remplacer le guide suprême et ainsi mettre un terme à l'opération. Donc ça gêne le président. Le président américain reste persuadé qu'il peut renouveler à une plus large échelle l'opération Maduro au Venezuela pour retrouver une stabilité dans la région et opportunément s'emparer du pétrole iranien habituellement dévolu aux Chinois grâce à un leader à sa solde, on va dire. Je précise que rien ne laissait penser que Larijani aurait été, de son point de vue, ce leader prêt à faire allégeance à Donald Trump. Les Israéliens, au contraire, ils cherchent, par rapport aux États-Unis, à amoindrir au maximum les capacités de nuisance de l'Iran, à détruire ses défenses, ses capacités balistiques, quitte in fine, à morceler le pays. C'est la raison pour laquelle ils se sont attaqués, malgré l'avis négatif de la Maison-Blanche, à des installations pétrolières, également jeudi dernier à South Pars, un des plus grands champs gaziers du pays, champs gaziers que les Iraniens partagent avec les Qataris, et ça a donné lieu évidemment à des frappes de réplique sur le Qatar qui ont détruit 17% des capacités de production du Qatar, avec une estimation des réparations sur 5 ans. Donc ça veut dire que si l'Iran enfonce le clou, ils peuvent complètement détruire toutes les installations gazières du Qatar. Je précise que le Qatar nous fournit, je crois, 35% du gaz liquéfié. Donc ça serait une véritable catastrophe. Et je cite pour finir Valinastre, qui est un chercheur, donc je conseille d'ailleurs le site et le compte Twitter, qui est un chercheur américano-iranien spécialiste du monde islamique. Il dit « Cela pourrait être le début du prochain cycle d'escalade dans le golfe Persique, allant au-delà de la fermeture du détroit d'Ormuz, aux attaques contre les champs de pétrole et de gaz, les infrastructures énergétiques qui ne pourraient qu'aggraver l'impact de la guerre sur les prix de l'énergie. On le voit bien, ce matin, le Brent, est passé à $114 le baril.
Merci beaucoup Régis Le Sommier pour cette présentation, on ne va pas dire exhaustive, mais en tout cas très large, des tenants et aboutissants de ce conflit. Je voudrais revenir d'abord sur un point qui est effectivement en interne des États-Unis. On voit qu'il y a une vraie compétition qui est en train de se mettre en place entre J.D. Vance, donc que nos auditeurs connaissent forcément, dont ils ont entendu parler, et quelqu'un qui n'était pas forcément très connu du grand public français ou européen, en tout cas jusqu'à ces derniers mois, c'est Marco Rubio, qui, lui, pour le coup, est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, et les deux semblent en compétition, chacun avec leur style et chacun avec leur vision pour justement la présidentielle de 2028. Marco Rubio, est-ce que pour le coup, de son côté, c'est un Trumpiste fervent ?
Pas du tout. Non, pas du tout. C'est une pièce rapportée, plutôt une concession à la base faite aux républicains, puisque il a fait partie des candidats qui se sont affrontés avec Donald Trump dans les primaires et à plusieurs reprises. Il fait partie d'une ligne qui n'est pas du tout celle de Trump à la base, puisque c'est un membre de la galaxie néoconservatrice, on va dire, avec un prisme assez marqué pour l'Amérique du Sud, qui est assez logique puisqu'il est cubain d'origine, sa famille ayant quitté l'île avant, je le précise, l'arrivée de Fidel Castro, hein, à l'époque de Batista. Mais depuis, il fait partie de ce qu'on appelle ces Cubains de l'exil, qui sont tous à Miami, en Floride, et qui rêvent évidemment de changer les choses à la fois au Venezuela, maintenant c'est fait, mais aussi sur Cuba. Et Donald Trump, d'ailleurs, a plaisanté l'autre jour, lors d'une conférence de presse avec Rubio, en lui disant qu'il avait un job pour lui, un prochain job pour lui, ce serait d'être président de Cuba. Ouais, bon, alors, était-ce une manière pour de dire à Rubio, tu seras jamais président, tu seras jamais mon successeur, ça sera J.D. Vance. Je crois que Trump n'a aucun intérêt à arbitrer, il ne va pas le faire. Maintenant, par rapport à la question que vous m'avez posée sur les deux hommes, oui, il y a une adversité qui est née de par la conduite de Marco Rubio, qui a su épouser, on va dire, le personnage de Trump et dans le sillage de Trump, ne pas perdre de cote de popularité. C'est-à-dire sa cote de popularité dans l'exercice de son mandat de secrétaire d'État, n'a pas diminué, alors que c'était celle de J.D. Vance, on va dire, a stagné. Mais J.D. Vance s'est vu un petit peu détrôné de la position qu'il avait dès le départ.
Parce qu'il faut dire, que J.D. Vance avait quand même une position de vice-président assez inédite en termes d'importance aux États-Unis. C'est-à-dire que rarement un vice-président avait été autant mis en avant.
Dick Cheney, quand même.
Oui, effectivement. Mais
au point où Dick Cheney, on se demandait si c'était pas le vrai président. Oui. Donc, c'est un peu particulier, en effet. Mais oui, en effet, le vice-président, d'habitude, on l'a vu avec Kamala Harris et Joe Biden, c'est quelqu'un de complètement éclipsé, quelqu'un qui est là peut-être pour reprendre les commandes quand le président est assassiné. Lyndon Johnson, au moment de Kennedy. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas habituel. Là, oui, il y avait. C'était d'ailleurs très intelligent de la part du mouvement MAGA et de Donald Trump de désigner déjà un héritier pour dire on installe un courant dans la vie politique américaine, on transforme la société. Il y avait une véritable presque visée révolutionnaire chez Trump et ce positionnement de J.D. Vance était intéressant dans la mesure où J.D. Vance à la fois a apporté de la mesure à Trump, c'est-à-dire qu'il fallait, on avait pris l'habitude, nous journalistes, quand Trump avait ses poussées, ses excès, d'aller voir en général après ce qu'en disait J.D. Vance, qui apportait justement du calme, de la réflexion, et un caractère intellectuel aussi.
Mais ce que j'allais dire, c'est que même J.D. Vance a un caractère personnel plus européen que Donald Trump ou que Marco Rubio.
Attention, plus européen, on est quand même dans des gens qui sont en rupture avec l'ordre traditionnel du monde.
Ah non, mais absolument. Mais ce que je veux dire, c'est dans la mentalité, dans la manière d'être.
Peut-être.
J.D. Vance s'en rapproche plus. Oui, voilà, exactement. On pourrait dire ça.
Moins trumpien et plus civilisé, oui, si vous voulez. Mais en tout cas, en termes de pensée, ça reste très radical. Ça reste les alliés, l'Europe, on les méprise. Et J.D. Vance les méprise autant que Donald Trump.
Et rappelons aussi, pour clore un petit peu ce sujet, que si J.D. Vance est effectivement un peu passé sous les radars ces derniers temps, il ne faut pas oublier qu'il a toute la Silicon Valley derrière lui.
Oui.
Et effectivement, tout ce courant on va dire, de la néo-réaction, entre autres, avec effectivement de nouvelles pensées, on va dire. Ce que n'a pas Rubio, tout à fait. Donc il y a une élite, J.D. Vance. Mais il y a aussi une question qui est intéressante, qui vient plutôt d'un personnage comme Nick Fuentes, donc qui représente un petit peu l'extrême droite américaine. C'est la question de, au-delà de mourir pour des guerres à l'étranger, de payer pour des guerres à l'étranger. C'est-à-dire que Donald Trump s'est quand même fait élire sur deux sujets qui étaient immigration et inflation, donc quasiment la même chose qu'en France finalement, mais on va dire immigration et pouvoir d'achat si on voulait. L'inflation aux États-Unis n'est pas non plus complètement endiguée. Il y a quand même toujours... Donald Trump n'a pas résolu les problèmes économiques qu'il promettait de résoudre. Le Doge n'a jamais réussi à remplir son office. Est-ce que justement Donald Trump peut subir des critiques par le fait que, eh bien, évidemment, des opérations militaires comme ça à l'autre bout du monde, ça coûte extrêmement cher ?
Donald Trump fait, comme ce qu'il a souvent fait dans sa vie, une sorte de partie de... on mise tout sur peut-être la roulette, mais en tout cas... Un coup de casino. C'est-à-dire qu'il table sur le fait que l'opération qu'il a mis en cours va apporter un succès tellement exceptionnel qui sera par exemple la chute de l'Iran et le remplacement du régime des Mollahs par un régime stable, c'est ce qu'il espère toujours, et il est prêt à continuer encore cette guerre pour voir si ça fonctionne. Et je pense que s'il y arrive, il pense que les dividendes de cette débarrassée de l'Iran lui retomberont sur sa gestion, et que les investissements ensuite, donc c'est-à-dire qu'il demande une sorte de souffrance du peuple américain, encore que, comme souvent dans les guerres américaines, c'est pas le peuple américain qui souffre le plus, parce que lui, il reste loin, il a ses réserves de pétrole. Je précise d'ailleurs une information qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les États-Unis sont le premier producteur de pétrole au monde, le premier producteur de gaz au monde, le premier exportateur de pétrole au monde et le premier exportateur de gaz au monde. Donc ça leur donne une position relativement sereine, même si ce qui est en train de se passer avec la destruction des économies du Golfe est un vrai problème pour Trump. Au-delà, ça c'est l'épine dans le pied, l'imprévu. Je citais Dan McCain, chef d'état-major des armées, qui avait dit « Attention, les alliés vont se retrouver affaiblis. » Là, ça a été le talon de l'Achille de l'opération, et ça promet de continuer à l'être, c'est-à-dire que maintenant, les marchés asiatiques commencent à souffrir, et que finalement, l'économie du monde et la structure, notamment des énergies mondiales, va forcément en pâtir, et Donald Trump va être extrêmement impopulaire. Mais du point de vue américain, ça va encore. Ce qui va être un problème, c'est que si le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats, pour prendre ces trois-là, sont anéantis, les promesses qu'ils avaient fait d'injecter 3000 milliards de dollars à 3, je parle de 1,4 milliard pour les Émirats, 1,3 milliard pour le Qatar, et 800 millions de dollars pour l'Arabie Saoudite, on est à peu près à 3000 milliards de dollars dans l'énergie, dans l'économie américaine sur les 10 ans. Ça, c'était la grande réussite de la tournée de Trump au Moyen-Orient en mai dernier. Eh bien, s'ils sont anéantis, évidemment, ces promesses d'investissement ne verront jamais le jour. Et donc, du coup, les promesses, finalement, de prospérité à domicile risquent de ne pas se matérialiser non plus, pour plein d'autres raisons aussi. Et là, Trump fait un pari vraiment, vraiment risqué, et on peut se demander si d'ailleurs il n'a pas déjà perdu ce pari, et que la situation aujourd'hui est tellement grave que la capacité de convalescence, le temps de convalescence sera bien trop important, et il n'interviendra pas évidemment avant les mid-terms.
Alors la situation est particulièrement grave, mais elle peut l'être encore plus. C'est-à-dire que là,
le pire n'est jamais impossible.
Mais sans vouloir faire de catastrophisme non plus, c'est vrai qu'il y a aussi un risque qu'on commence à percevoir ces derniers temps, c'est le risque d'une escalade régional, dans le sens où effectivement de plus en plus d'acteurs seraient impliqués. Alors on voit personne qui soutiendrait potentiellement l'Iran dans toute cette affaire.
Les Houthis.
Oui, alors les Houthis, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais aucun État, mais oui.
C'est-à-dire en cas d'attaque américaine, par exemple, sur l'île de Karg, les Houthis peuvent rentrer et bloquer Bab al-Mandab.
J'allais y venir, c'est-à-dire qu'effectivement, le détroit d'Ormuz est bloqué pour le moment, mais en cas d'escalade qui pourrait, on pourrait voir une implication de l'Arabie Saoudite ou alors des Émirats Arabes Unis, il y aurait aussi effectivement cette possibilité pour que le détroit de Bab el-Mandeb, donc par lequel transite une grosse partie quand même du commerce mondial,
12%.
Soit bloqué par les et donc 12% qui vont en Europe, précisons aussi, soit bloqué par les houthistes.
Oui, les houthistes disent c'est d'ailleurs intéressant, le surnom du détroit de Bab el-Mandab, c'est la porte des lamentations. Ouais, donc on ne peut plus faire mieux meilleur surnom particulièrement en ce moment. Non, les Houthis ne sont pas encore entrés en action. Ça fait partie des proxys de l'Iran, comme les milices chiites qui, elles, pour le coup, sont entrées en action en Irak. On a vu des attaques répétées sur la base de Camp Victory, qui était la principale base américaine à côté de l'aéroport de Bagdad. Bagdad, qui a été ciblé, visé plusieurs fois de suite. Au Kurdistan, à Erbil également aussi, plusieurs bases, plusieurs forces américaines, et d'ailleurs des Français, un Français a été tué et 6 autres ont été blessés dans des attaques de drones. Mmh. Donc moi je suis très inquiet pour l'Irak. Pour moi je vois vraiment une situation se détériorer. Les troupes de l'OTAN ont quitté l'Irak. Le pays est aux mains des milices ultra puissantes, les Al-Shabi, et on voit qu'elles commencent à se déployer. Si les Houthis, précisons ça, décident de fermer Bab el-Mandab et donc l'accès à la mer Rouge, là on est dans une situation où même l'approvisionnement de l'Aramco, qui est la principale société saoudienne de pétrole, le pipeline qui arrive en mer Rouge pourrait être aussi ciblé par les Houthis. Donc finalement, on est dans une situation où si les Américains interviennent, il risque d'y avoir... ça risque encore de s'aggraver. Donc quand vous dites l'Iran n'a pas d'alliés, il a un maillage régional de milices chiites qu'il a déjà mis en place. D'ailleurs, on sait très bien que le Hezbollah, par exemple, a été restructuré sur injonction du IRGC, donc des gardiens de la révolution, et aujourd'hui est en position bien plus forte qu'on l'avait imaginé contre Israël. Donc on vous avait ça aussi, et vous avez toute cette pléthore de milices à droite à gauche que l'Iran peut activer à volonté.
Oui, qui en fait représente pas de puissance économique ou de grande puissance militaire d'une certaine façon, mais qui ont un pouvoir de nuisance qui est très important.
Vous avez quand même une des forces de frappe qui a empêché Daesh de conquérir Bagdad.
En Irak, bien sûr.
Vous avez des gens sur lesquels d'ailleurs la coalition à l'époque, on l'oublie complètement, mais la coalition s'est appuyée en août 2014 quand Barack Obama a déclaré la guerre à Daesh. Qui faisait le travail au sol en Irak, c'était les Al-Shabi. Oui. Donc les miliciens irakiens,
les Kurdes,
chiites, pro-Iran, qui ont reconquis les villes de Tikrit, de Fallujah, de Ramadi, avec l'appui aérien des Américains. Donc c'est des gens qui non seulement connaissent les Américains, mais en plus ont servi avec eux. Et aujourd'hui, on leur demande finalement de créer un état de nuisance autour des bases américaines, et on voit que ça marche. C'est un vrai problème.
Et alors, il y a un dernier point qui m'intéressait beaucoup, Régis, il nous reste 5 minutes dans votre préambule, c'était l'asymétrie des objectifs. C'est-à-dire que d'un côté, on a, si je résume, si j'ai bien compris, on a quand même d'un côté Israël, dont l'objectif est d'anéantir les capacités de l'Iran à frapper effectivement Israël, donc anéantir ses capacités militaires. D'un autre côté, on a l'Iran qui doit durer et qui doit tenir... le temps que ça s'arrête quelque part. Et enfin, les États-Unis qui ont dû se trouver des objectifs en se faisant effectivement engrainer dans cette guerre, comme le disait Joe Kent. Aujourd'hui, est-ce que les objectifs des États-Unis sont seulement clairs ?
Non, toujours pas. Toujours pas.
Après un mois de conflit, quelque part.
Récupérer les 440 kilos d'uranium enrichi, bon, c'est pas très bien où ils sont. Dit-on à Ispahan, mais bon, on ne sait pas, c'est pas fait, le changement de régime, il n'est pas fait, donc deux des principaux objectifs n'ont pas été atteints.
L'instant, pourrait-on dire, mais...
Enfin, pour l'instant, vous savez, quand on fait ce type d'opération, et vu l'envergure de cette guerre, le temps, au départ, la force dépasse le temps, et ensuite le temps devient votre ennemi principal. Les Américains ont passé 10 ans au Vietnam, ont eu beau déverser sur les Nord-Vietnamiens, le Viet Minh, une quantité de bombes hallucinantes. Le temps a fini par jouer contre eux. Le temps a joué contre eux en Afghanistan. Les talibans disaient vous avez les montres, mais nous on a le temps. Et effectivement, ils ont attendu 20 ans et ils sont revenus au pouvoir. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, le temps joue contre les Américains. Et là, ils commencent à jouer dans la mesure où même détruit l'Iran... démontrant chaque jour sa capacité de continuer à envoyer des missiles, prouve qu'il est toujours vivant, prouve qu'il est capable de surprendre son adversaire, d'avoir l'initiative. Et donc là, clairement, chaque jour qui passe est à la désavantage non seulement des États-Unis, mais aussi d'Israël.
Oui. Mais alors justement, c'est ça qui est quand même particulier, c'est que les États-Unis, finalement, on a du mal à voir ce qui serait réellement une victoire pour eux. Et en plus, même j'ai envie d'aller plus loin, on en parlait tout à l'heure des conséquences économiques, mais c'est dur de voir ce que les Américains pourraient considérer eux-mêmes comme une victoire.
C'est ça le problème principal de Trump, c'est que Trump a misé sur une guerre de courte durée, il s'avère qu'elle ne va pas être de courte durée. Donc face à ça, il va falloir revoir les logiciels pour quand la même chose s'est produite en Irak, où l'architecture du pouvoir de Saddam Hussein est tombée en 3 semaines et que la guerre a duré 10 ans, on a envoyé des généraux à l'époque. Hein, le général Petraeus avait été missionné pour rattraper une guerre qui était mal partie, faisant des alliances. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, retournant la communauté arabe sunnite irakienne, obtenant des résultats grâce à des méthodes de contre-insurrection contre Al-Qaïda en Irak. Bref, et in fine parvenant à faire diminuer le nombre d'attentats suicides dans le pays. Là, on n'est pas dans une occupation stricto sensu, on est toujours dans la question des frappes. Mais quand vous avez un pays qui fait 1,5 million de kilomètres carrés...
90 millions d'habitants aussi.
Oui, 90 millions d'habitants, dans lequel il n'y a aucun signe que le pouvoir en place est en train de vaciller, il faut vous poser des questions. Ça veut dire que vous êtes parti dans... Vous allez peut-être gagner tactiquement et stratégiquement, vous risquez de perdre. Oui. C'est ça le vrai truc.
Parce que...
Tandis que les Iraniens, eux, maintenir un pouvoir cohérent et continuer à tenir les commandes, c'est pour eux en soi une victoire. Voilà, c'est une victoire de résistance.
Et concluons peut-être en expliquant aussi que finalement le peuple iranien ne s'est pas soulevé du tout sur tout ce mois, ou très très peu en tout cas, il y a eu quelques manifestations, mais c'était très très faible sur ce mois passé, et que donc... on ne voit même pas finalement de soutien dans la population de ces frappes, ce qui est particulièrement... compliqué, mais merci.
Non, mais tout ce que les États-Unis avaient sur le Kurdistan, pareil. Ils avaient misé sur les Kurdes pour essayer de fomenter une rébellion à l'intérieur. Ça ne s'est pas produit non plus. Les Kurdes n'ont pas mordu à l'hameçon. En fait, finalement, on se retrouve avec un pouvoir qui semble consolidé, même s'il a perdu ses têtes. Pourquoi ? Parce qu'il est militaire aujourd'hui, ce pouvoir. Et donc, ce sont les militaires qui sont au pouvoir et tous les éléments modérés ont été éliminés. Donc, il n'y a pas de possibilité de négocier.
Eh bien, espérons quand même qu'il y aura une porte de sortie, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, qui sera pas trop catastrophique, comme on l'a un peu prédit aujourd'hui. Mais on en reparlera sans doute dans une semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Régis Le Sommier.
Merci, Alexandre.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Ligne droite.
Et on poursuit avec la chronique de Raphaël Audouard de la Fondation des Patriotes pour l'Europe. Bonjour Raphaël Audouard,
bonjour,
et merci d'être avec nous. Le Royaume-Uni est en train de devenir un laboratoire des recompositions de la gauche européenne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ?
En fait, le Royaume-Uni est assez en retard sur le reste de l'Europe en ce qui concerne les évolutions politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni voit l'émergence d'une droite populiste avec le Reform Party de Nigel Farage. Donc, un phénomène qui s'est passé en Europe depuis 10 ou 20 ans, en fait. Donc, c'est-à-dire que le Royaume-Uni connaît ces évolutions que depuis très peu de temps. Et donc, du coup, c'est une situation où la gauche est toujours très puissante, elle est toujours ancrée dans la classe populaire. Le Labour Party, donc le grand parti de gauche socialiste, et le parti écologiste, à eux deux totalistes, plus de centaines de milliers d'adhérents. Les syndicats liés au parti travailliste ont plusieurs millions d'adhérents. Donc c'est des partis encore très ancrés dans la classe populaire, mais qui voient en fait la montée de cette droite populiste et qui voient aussi ce qui arrivait dans le reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils voient avec une certaine crainte la gauche européenne mourir, ou en tout cas s'effondrer un peu partout. Ils se disent il faut absolument éviter ça en fait. Et donc du coup, ce retard du Royaume-Uni permet à la gauche de chercher à éviter cette situation. Et on voit différentes gauches proposer différentes voies pour essayer de conjurer ce destin d'un effondrement de la gauche au Royaume-Uni et d'une émergence des droits de patriotes.
Alors du coup, quelles sont les différentes gauches qui émergent au Royaume-Uni ?
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des évolutions à la fois à l'intérieur du Parti travailliste, qui a été pendant longtemps le parti hégémonique à gauche, mais aussi maintenant à l'extérieur. Et pendant longtemps, au sein du Parti travailliste, on voyait en fait deux grandes tendances, une tendance plus néolibérale, plus libérale, qui avait émergé avec Tony Blair, une tendance plus radicale, plus socialiste, qui était représentée notamment par Jeremy Corbyn pendant longtemps. Donc en ce moment, l'aile gauche du Labour est en grande partie sortie du parti. Jeremy Corbyn et une grande partie de ses partisans ont quitté le parti travailliste. Starmer, donc le premier ministre actuel du Royaume-Uni, incarne l'aile libérale du parti. Mais on voit au sein de cette aile libérale, au sein de cette aile plus modérée, des grands débats autour de la question de l'immigration et de la sécurité, en fait. C'est-à-dire que Starmer a bien compris que s'il voulait rester au pouvoir, il fallait qu'il commence à défendre une position plus critique de l'immigration, il s'empare de la question de l'insécurité. Et on voit au sein du Labour ce qu'on appelle le Blue Labour, donc le Labour bleu, en référence au bleu des conservateurs, qui est un courant au sein du Labour, qui essaye de pousser le parti travailliste à adopter une ligne clairement anti-immigration, clairement sécuritaire, et aussi assez critique des évolutions sociétales, donc du wokisme, des choses comme ça en fait. Des figures comme Sabana Mahood, figure la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, incarne cette tendance. Donc on voit en fait de plus en plus de débats au sein du parti travailliste autour de cette question-là. Et à l'extérieur du parti travailliste, on voit l'émergence de nouveaux partis, deux grands partis, le parti vert d'un côté qui émerge maintenant, qui est aux alentours de 15% dans les sondages, et Your Party, le parti créé par Jeremy Corbyn, une partie des anciens travaillistes. Et on voit au sein du parti vert la ligne dominante, et au sein de Your Party la ligne représentée par certains courants au sein de Your Party, qui va être une gauche un peu à la Mélenchon, ça veut dire progressiste, woke, indigéniste, pro-immigration. C'est classique en fait, donc radical sur l'économie mais très progressiste sur le reste. Mais on voit aussi au sein de Your Party et même à l'extérieur de ce parti une ligne assez différente émerger, incarnée un peu par Corbyn, incarnée aussi par une figure qui s'appelle Galloway, le leader du Workers' Party au Royaume-Uni. Donc il va être une ligne beaucoup plus indigéniste. Donc clairement, Galloway s'appuie par exemple clairement sur les minorités musulmanes du pays. Autour de Jeremy Corbyn, on trouve des députés qui ont été élus dans des circonscriptions extrêmement pakistanaises, extrêmement musulmanes. Et en fait, paradoxalement, en fait, ces gens vont défendre une position moins woke et moins même immigrationniste que le reste de la gauche radicale. En fait, c'est des gens qui vont se focaliser beaucoup plus sur le social, qui ont été élus par des populations très pauvres, plus conservatrices, parce qu'évidemment, les populations musulmanes sont beaucoup moins progressistes que la classe moyenne blanche des grandes villes, et même sur l'immigration et la sécurité, qui vont des discours un peu plus réalistes, parce qu'en fait, ils sont élus par des populations qui vivent ça. En fait, c'est-à-dire que certes, les populations pakistanaises ou musulmanes des banlieues, des grandes villes anglaises sont favorables à l'immigration, mais elles voient réellement, concrètement, dans leur quartier, la sécurité, la violence. Et une grande partie de l'électorat, en fait, désire plus d'ordre, plus de sécurité. Et donc, du coup, on voit ces partis-là, qui sont malgré tout, sont pourtant très indigénistes, défendre des positions plus critiques de l'immigration, plus critiques de la sécurité. Et donc, du coup, on voit au sein de la gauche un double clivage qui apparaît, d'un côté avec le clivage économique, entre des lignes plus libérales, des lignes plus étatistes, et un clivage culturel et immigrationniste, entre des positions plus progressistes et immigrationnistes, des positions plus conservatrices et plus critiques de l'immigration.
Et est-ce que ces clivages se retrouvent dans le reste de l'Europe ?
Ouais, ça dépend beaucoup de est-ce que la gauche a encore des liens avec les classes populaires, en fait. C'est-à-dire que dans des pays comme les pays nordiques ou en Europe centrale et de l'Est, où la gauche est encore très populaire, on voit en fait une gauche anti-immigration émerger. En France, par exemple, où les classes populaires sont massivement allées vers le Rassemblement national, et où LFI, le PS ont un électorat plus de classe moyenne, ces évolutions sont beaucoup moins fortes. Néanmoins, on peut voir quand même des traces de ces évolutions. On peut citer en France tout le courant autour du printemps républicain, au sein du PS, qui défend une position quand même plus laïque. Alors, ils parlent assez peu d'immigration, mais ils défendent quand même une position plus laïque, plus sécuritaire. Et même au sein de LFI, on voit quand même des débats commencer à émerger. Après le score assez moyen de LFI au premier tour, on avait vu les paroles d'honneur, donc la chaîne News d'Agenda de la République, dire qu'un des gros problèmes de LFI, c'est qu'il n'avait pas à parler aux classes populaires blanches. On se dit, en fait, voilà, il faudrait quand même qu'on trouve un moyen d'aller parler à ces classes populaires blanches. Et en fait, même si on regarde le discours de David Giraud, qui vient d'être élu dans le nord de la France, quand on regarde son programme sur la sécurité, il est beaucoup moins radical que certains de ses camarades des autres villes. En fait, il n'a pas parlé des armées à police, il a quand même parlé d'un retour de l'ordre. C'est-à-dire qu'on sent quand même que là où il est élu, en fait, les gens ont des aspirations à certaines sécurités. Et David Giraud a été obligé de modérer un peu le discours de la France Insoumise là où il a été élu. Donc ces évolutions-là, on commence à les voir aussi au sein d'une partie de la gauche française, mais elles sont beaucoup moins fortes que dans d'autres pays, puisque, comme je l'ai dit, cette capacité de la gauche à évoluer sur cette question-là est très liée à son ancrage ou non dans la classe populaire.
Merci Raphaël Audor pour ce décryptage, et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Merci.
Merci.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour à tous. Je n'oublie pas que Radio Courtoisie est aussi la radio de la défense du français et de la francophonie. C'est pourquoi je vous engage à lire le numéro 9 de la revue Défense de la langue française, daté du trimestre en cours et qui est l'émanation de l'association Loi 1901, créée déjà depuis 1958 et qui porte le même nom, réunissant 3000 adhérents. Toujours très bien informé, on y lit toutes sortes d'articles, des chroniques, des enquêtes et même des mots croisés. On y apprend par exemple que Julien Song, 32 ans, maître d'échecs international français, qui a des comptes sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, pour ne pas les nommer, rassemblant plus de 800 000 abonnés dans le monde, donne souvent des conseils et interagit avec son public. Il se confie en disant qu'il fait partie des 10 créateurs de contenu sur les échecs les plus courus, sachant que les 10 premiers sont dominés par les anglophones. Je suis fier d'être le seul dans ce classement à représenter la langue française, confie-t-il. On me dit souvent, pourquoi tu en fais pas tes vidéos en anglais? Tu exploserais encore plus. Et je réponds toujours la même chose, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Le français, c'est aussi un lien puissant entre des pays très différents. Il raconte que lorsqu'il a organisé des tournois dans les pays francophones, c'est cette langue qui a effacé les frontières. C'est ça la force de la francophonie. Il raconte aussi qu'en un mois, ses contenus autour des échecs ont dépassé les 250 millions de vues, et tout ça en français. Avant de conclure, la langue française est forte, vivante et mérite qu'on continue de la faire rayonner. Sinon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais certaines expressions que nous utilisons versent trop souvent dans un franglais que l'on pourrait éviter. Par exemple, je déteste dire quand je prends l'avion l'expression « business class » ou « lounge » si votre carte de fidélité d'une compagnie aérienne vous permet d'y accéder. On dira plutôt « classe affaires », bien sûr, et « salon », qui est un mot autrement plus joli que « lounge ». Ainsi, dans le dernier numéro de Défense de la langue française, Christian Tremblay rappelle que l'on peut remplacer aisément l'expression « business model » par « modèle économique » ou même « modèle d'entreprise », qui est la recommandation officielle, ou même « modèle d'entreprise », qui a donc une recommandation avec cette définition, schéma identifiant et combinant les paramètres qui caractérisent une entreprise du point de vue de l'organisation, du fonctionnement et de la stratégie afin de mettre au jour les facteurs de sa rentabilité. Bon, une définition quelque peu ronflante, il est vrai. Passons. Cependant, au sujet des anglicismes trop souvent répandus dans notre langue qui confine au verbiage, Donald Liston, dans un article intitulé « Humour anglais », rappelle qu'Henriette Walter fut l'auteur d'un ouvrage magistral « Onisoi qui mal y pense », sous-titré « L'incroyable histoire d'amour entre le français et l'anglais », et on y trouvait la fameuse phrase de Clémenceau « La langue française n'existe pas, c'est du français mal prononcé ». Ce dont Bernard Cerchilini s'était servi comme titre pour son ouvrage, paru en folio inédit essai, publié en 2024, et que je vous recommande chaudement, car il insiste sur les anglicismes que notre langue emprunte de vieux mots français qui ont équipé l'anglais, mais qui reviennent dans un emploi nouveau. Alors je cite « challenge »,« vintage », »,« glamour », tennis ou standard. Alors évidemment, je les ai prononcés à la française, comme il se doit, des mots qu'il serait de mise, donc se les réapproprier, pour le moins en les prononçant donc à la française. Et dans son article de la revue de Défense de la langue française, Donald Liston rapporte les consignes que donnait le général de Gaulle au ministre des Armées, Pierre Messmer, dans une lettre du 19 juillet 1962. Il parle d'un emploi excessif de la terminologie anglo-saxonne avant d'ajouter « Je vous serai obligé de donner des instructions pour que les termes étrangers soient proscrits chaque fois qu'un vocable français peut être employé, c'est-à-dire dans tous les cas. » Alors un mot aussi sur Politique Magazine, daté de mars, dont la couverture est consacrée au couple franco-républicain, quelque peu en lambeaux, vieille ancienne de Richard XVI et Hilaire de Crémier. Le magazine rapporte que le Cevipof a publié en février son 17e baromètre de la confiance politique. Seuls 15% des Français déclarent faire confiance aux partis politiques. La confiance accordée au président de la République tombe à 18% et celle dans l'Assemblée nationale atteint un niveau historiquement bas à 20%. 51% estiment qu'il n'y a pas de quoi être fier de notre système démocratique et seuls 20% considèrent que les responsables politiques essaient de tenir leurs promesses. Le sondage dit clairement que 82% considèrent que la situation est grave, comme ils pensent aussi que le gouvernement a moins de pouvoir que l'UE et les marchés financiers. Leur lucidité ne leur apporte aucun réconfort. Sinon, le Nouveau Conservateur numéro 29, daté de mars, titre sur la dénatalité, la crise de l'amour et publie un dossier écologie, économie et patrimoine. Paul-Marie Couteau et Guillaume de Thieulois signent un éditorial cinglant et ils affirment « Nous savons bien que la croissance démographique est, quoi qu'ait pu en croire Malthus, le principal levier de la croissance économique. Nous savons bien que sans enfants, l'État-providence qui a vampirisé toute l'action publique va s'effondrer. Mais à la différence d'Emmanuel Macron, les questions économiques sont pour nous secondaires et le fait que pour la première fois depuis 1945, les décès ont en 2024 excédé des naissances nous inquiète pour des raisons autrement plus profondes que le sort des caisses de retraite. Sans enfants, plus de France, ne croyons pas trop facilement que cela n'arrivera pas. D'autres civilisations prestigieuses ont disparu, la nôtre n'est nullement assurée de subsister jusqu'à la parousie. » Fin de citation. Alors on lira aussi avec intérêt un article signé du géopoliticien Antoine de Lacoste, « Effondrement démographique et bouleversement géopolitique », qui évoque la situation à l'étranger, expliquant que la démographie est en berne et que c'est un phénomène mondial, hormis l'Afrique subsaharienne. On lira également l'analyse de Frigide Barjot, qui se présente aujourd'hui comme militante de la cause bio-humaine et qui revient sur la tendance actuelle. Pas d'enfants, des chats. Pour elle, les enfants deviennent des produits de grande consommation en tout genre, tandis que les chats, les chiens et les nouveaux animaux de compagnie voient leur protection juridique les transitionner en nouvelles personnes sensibles. L'antispécisme, mais sans les poils, est devenu le Saint Graal au pays de feu Brigitte Bardot. Voilà, à lire dans le Nouveau Conservateur, disponible à la Procure, à la librairie Logos ou à la librairie du Ken à Paris, notamment. Et de mon côté, je vous dis à demain.
Zone libre.
Et on a encore 3 minutes avec vous, Richard de Sèze.
Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'un très bon article paru dans Le Monde, publié le 20 mars 2026 à 7h30 et modifié le 20 mars 2026 à 16h34, qui nous parle de la dimension communautaire du blanchiment d'argent. Alors, de temps en temps, on pourrait croire qu'il y a des fantasmes, et là, c'est Le Monde, journal de référence, un journal de gauche qui nous dit, je cite, « À la portée des réseaux criminels de bas et de milieu du spectre, c'est-à-dire indépendamment de l'Assemblée nationale, cette technique s'appuie sur la gestion des fonds de commerce à forte dimension communautaire, point relais de colis pour les gérants issus du sous-continent indien, kebab et échoppe de barbier pour les réseaux animés par des individus familialement liés au Maghreb, salon de coiffure ou épicerie de produits exotiques pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne. »
C'est pas nous qu'on l'a dit,
c'est le Monde, et avec des infographies très intéressantes, avec le Saraf, banquier occulte, qui coordonne et anime le réseau du blanchiment, et on voit comment ça fonctionne, le paiement pour compte de tiers, le blanchiment via des sites de vente en ligne, le blanchiment basé sur le commerce, et voilà, tout ça étant évidemment tiré d'une enquête très sérieuse des ministères de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances, voilà, qui sont dirigés par des ministre macronien et donc peu susceptible de céder à la haine. Et cette dimension relativement simple exige en réalité une ingénierie sophistiquée à la portée de spécialistes aguerris. Les marchandises le plus souvent utilisées sont celles dont le négoce implique des volumes importants, un transit par différents pays et un nombre élevé d'acteurs et d'intermédiaires, matières premières, textiles ou services dans les secteurs des paris et des jeux vidéo en ligne. Et c'est très très intéressant, et donc une fois de plus, il y a une petite dimension communautaire, et on attend bien sûr que l'inspection du travail fasse son travail, et au lieu de passer sa vie dans les restaurants tenus par des gens, des Gaulois de base ou des chefs 3 étoiles à qui on reproche le fait de déjeuner à la cantine et donc à qui on essaye de facture le prix du repas 3 étoiles quand les employés ont mangé une tartine avec un peu de pâté, et ben au contraire de s'intéresser à tous ces petits commerces donc où le blanchiment communautaire est la règle, avec on voit une répartition intelligente entre barbier, kebab et épicerie qui permet de faire en sorte que l'ensemble des diasporas présentes en France puissent chacune tirer son épingle du jeu. Tout ça est évidemment parfaitement bien surveillé par le ministère, donc qui sait exactement comment on fait pour blanchir l'agent sale. Il ne reste plus maintenant que tous ces procès sensationnels s'ouvrent et on les attend.
Et voilà. On ne manquera pas d'en parler le jour où ça s'ouvrira. Merci Richard. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés ce matin sur X et sur YouTube. Vous pouvez continuer à suivre Radio Courtoisie sur la bande FM ou sur rc.fr. Le direct, c'est toute la journée, toute la nuit. Je vous rappelle que la radio, pour pouvoir continuer à émettre, a besoin de vos dons. Vous êtes déjà nombreux à nous aider. Ça nous permet de nous développer, de faire du terrain. Donc si vous voulez qu'on puisse continuer dans cette bonne dynamique, eh bien, rejoignez le mouvement.
Rejoignez le mouvement en allant sur soutenir.rc.fr. C'est une page très pratique qui vous permet de faire des dons en ligne selon vos moyens, selon la fréquence que vous souhaitez, une fois par an, tous les mois ou ainsi de suite, ou faire des chèques ou par carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. C'est très simple. En un clic, vous pouvez nous aider. Soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Merci d'avance, chers auditeurs. Tout de suite, on parle des municipales avec la réaction d'une élue de terrain, Isabelle Surplis.
Ligne droite. Debout les Français.
Et nous retrouvons Isabelle Surplis, conseillère régionale de Loire et conseillère municipale de Saint-Chamond. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci, merci de votre invitation encore.
Oh, merci d'être avec nous même aussitôt, parce que la soirée d'hier a été mouvementée pour vous, Isabelle Surplis, j'imagine. Vous étiez candidate au municipal donc à Saint-Chamond. Vous êtes donc désormais élue municipale, pas maire néanmoins. Voilà, vous vous êtes retrouvée dans une quadrangulaire qui était quand même marquée très à droite, puisqu'on avait donc d'un côté un pôle LR, on avait un groupe divers droites alliés. Vous étiez plutôt donc sans étiquette, mais néanmoins la voix qui rassemblait le Rassemblement National ou Reconquête. Et donc, en quatrième position, on se retrouvait avec les écologistes qui se démarquent un peu. Comment est-ce que s'est passé donc ce dernier scrutin pour vous, Isabelle Surplis ?
Alors, d'abord, je voudrais vous annoncer quelque chose, parce que non seulement je suis conseillère régionale, conseillère municipale, mais je suis conseillère métropolitaine à Saint-Étienne Métropole. Donc, je fais une entrée fracassante à la métropole de Saint-Étienne qui réunit 53 communes. Et ça, c'est une grande première, et donc je vole un siège clairement à la majorité, et je ne vous cache pas ma joie, on a fait la pampille hier soir, et oui, c'est un peu tôt, mais j'ai plein de choses à vous raconter.
Oui, on a hâte d'entendre ça. Alors, justement, quel serait votre rôle comme conseillère à la métropole ?
Alors, bon, d'abord, il y a le groupe à quatre, on passe de... Bon, j'étais un peu seule dans l'opposition, on passe à quatre. L'analyse qu'il faut faire, c'est que la majorité municipale qui rentre a perdu des sièges. L'opposition qui se disait de droite perd des sièges, la gauche est hyper distancée. Donc moi, j'entre au conseil métropolitain. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les finesses du système, c'est la parallèle, vraiment, c'est une assemblée délibérante qui est parallèle à la municipalité, sauf qu'en fait, elle regroupe 53 communes. Donc c'est une assemblée délibérante qui va fonctionner de la même manière, on va pouvoir faire des groupes, on va pouvoir s'allier. On va pouvoir être stratège et enfin faire de la politique sur des compétences qui sont hyper importantes. Donc, je rappelle, la métropole, c'est gestion des déchets, gestion des eaux usées, gestion voirie, également urbanisme, logements sociaux, etc., etc., aménagement du territoire. Donc, moi, je suis mais vraiment refaite de mettre un pied là-dedans, parce que c'est des budgets à plusieurs millions d'euros, évidemment plus d'une dizaine de millions d'euros par an. C'est là où le pouvoir se joue. Et franchement, je pense que... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je les ai vus être vraiment dégoûtés. C'est marrant que nous puissions faire une entrée là-dedans, quoi.
Oui. Et donc, avec toutes les compétences dont vous nous parlez, on comprend qu'en plus, ce sont des décisions qui vont avoir un impact direct, justement, sur la vie des habitants de Saint-Chamond, donc de la métropole de Saint-Étienne. Mais on est dans le concret, et j'imagine que vous avez la sensation que vous allez pouvoir réellement améliorer la vie des gens.
C'est-à-dire que la première chose qu'on va demander après l'installation du conseil métropolitain, c'est la suppression du QR code pour rentrer dans la déchetterie. C'est la je veux suspendre les 18 millions d'euros que s'est voté le bailleur social pour rénover ses propres bureaux, alors qu'en fait, on a besoin de rénover tous les logements sociaux. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des couramiaux notamment vivre dans des logements sociaux qui sont d'une misère et d'une insalubrité indigne. Donc voilà, j'ai l'impression que ça y est, on va pouvoir peser. Je vois que Corentin Jousserand a fini deuxième à Saint-Étienne avec la liste Rassemblement National. Et Dieu sait que la campagne n'a pas été simple jusqu'au jour du scrutin. D'ailleurs, je l'embrasse, je le félicite. Voilà, il y a pas mal de... Moi, je m'entends avec beaucoup de maires sans étiquette qui ont été réélus au premier tour, qui ont voilà, cette sensibilité de vouloir faire pour les habitants et pas pour sa propre place au soleil. Et oui, on va pouvoir s'entendre, ça c'est vraiment chouette.
Ouais, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. On voit quand même une percée du camp national donc à toute l'échelle du pays, encore plus, donc vous nous le dites, enfin, spécifiquement en l'occurrence, à Saint-Étienne. Est-ce que ça vous donne espoir aussi pour la suite de peser justement sur cette gauche ? Parce que vous l'avez dit, ça va aussi être le moment d'être stratège, de faire de la politique. Il y a quand même ces jeux d'alliance qui vont rentrer en compte. Donc, si je devais modérer un peu, je pourrais vous dire, bon, d'accord, vous êtes en place, mais maintenant, il va quand même falloir faire face à ce monstre administratif, à ces alliances, notamment de la part de la gauche. Comment est-ce que vous appréhendez tout ça ?
En fait, le discours que j'ai tenu et que je tiens depuis toujours à mes équipes, c'est qu'une élection en chasse une autre. Parce que tout se tient dans le millefeuille administratif. Donc, l'année prochaine, il va y avoir les présidentielles, puis les législatives. Et l'année d'après, les départementales, en même temps que les régionales. Et l'année encore d'après, les sénatoriales. Donc, il faut être maintenant malin. Et l'alliance que j'ai tentée, qui n'a pas abouti, montre bien qu'il y a des personnes... C'est bien, ça fait tomber les masques. Il y a des personnes qui font des vendettas personnelles, qui n'en ont rien à faire du bien-être des habitants, et d'autres qui veulent aller plus loin. Moi, ça fait donc 6 ans que j'ai été seule. Je monte un groupe à 4 maintenant. Je suis présidente de groupe. Moi, je l'ai vu hier, 4 fois plus de surplis. Ils sont vraiment pas sereins. C'est-à-dire qu'il y avait une adjointe qui disait « On gagne avec 42, c'est pas bon. » Elle disait « Elle en a 4. Elle en a 4. » Et voyez, nous étions les seuls, autres signes tangibles, on était les seuls en mairie à être présents parce que ça se fait. C'est-à-dire, nous, on va devoir composer avec tout le monde. La majorité sortante re-rentre. Donc, on est allé les saluer, les féliciter. Saluer les services, les remercier parce que c'est eux hein, derrière tout ça qui font tourner la boutique. On était les seuls, donc on va devenir nécessairement la première force d'opposition. Ensuite, ce qu'il faut bien voir dans le mandat qui va arriver, c'est qu'il va y avoir les affaires, les enquêtes sont en cours qui vont fragiliser justement cette majorité municipale. J'ai des travaux que j'ai pas encore révélés qui vont sortir, donc moi, j'ai vraiment cette gagne et vraiment, hier soir, j'étais hyper heureuse parce qu'il y a des gens qui sont déçus, mais en fait, c'est une progression historique. Je fais plus 150% des voix, ouais. Toute seule sans étiquette, quoi. Je veux dire, on est à plus de 2200 voix à nous tout seuls. Et ça veut dire qu'on a convaincu nous tout seuls sans aide d'appareil politique qui pèse, sans le logo. Donc non, on passe de 900 voix à 2200 voix en 6 ans, et c'est exponentiel parce que je multiplie par 2 mon nombre d'élus. Le prochain coup, comme dit Jordan, le prochain coup, c'est la bonne. Non, mais il faut toujours y aller. Si vous voulez, il y a une chose que je voudrais ajouter qui est importante. À Saint-Chamond, entre le premier et le deuxième tour, on perd 1 point de participation. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Mm. Ça veut dire qu'il y a un dégoût, un écœurement. C'est-à-dire que les tractations de mes collègues là n'ont pas forcément fonctionné. Et ça veut dire qu'on a à aller chercher ces gens pour leur dire « Nous, on va rester. Nous, on va faire ce qu'on a dit. Et on va vous montrer que faire de la politique autrement que depuis ces dinosaures qui font ça depuis 40 ans, qui vous proposent A et à la fin, vous avez Z, et ben c'est terminé. » Donc voilà, moi, je peux déjà vous dire que j'avais été, démarché par un élu qui est dans la majorité aujourd'hui et qui voulait aller à la métropole. C'est l'ancien patron du MEDEF 42, Benoît Fabre. Bon, je vois que sa tractation n'a pas fonctionné. Il n'est aujourd'hui visiblement pas élu à la métropole. Je lui pose la question. Est-ce que vous restez ? Enfin, est-ce que tu restes ? Parce que dans la réalité, tout ça n'est qu'un jeu de dupes et on se connaît très bien. Mais moi, je vais dévoiler tout ça, vous voyez ? On va arrêter de faire de la politique comme il faisait avant. On est en 2026 aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les nouvelles techniques de communication. On va tout dévoiler.
Bah écoute, on suivra justement ces masques que vous espérez faire tomber Isabelle Surplis. Est-ce que, on l'a dit quand même, c'était des municipales qui étaient marquées assez à droite à Saint-Chamond. Est-ce que vous regrettez un manque d'alliance ? Est-ce que vous auriez aimé porter justement cette étiquette d'union des droites au-delà des électeurs qui étaient plutôt de sensibilité Rassemblement National ou Reconquête ?
Non, je regrette vraiment pas le départ sans étiquette, parce que sur ma liste, en fait, j'ai des gens, d'ailleurs ils restent, hein, mais j'ai des gens extraordinaires qui ont besoin, sur cet ancrage local, de partir sur un socle rassembleur. Donc j'avais des colistiers, qui avaient l'étiquette RN, des colistiers qui avaient l'étiquette Reconquête, des colistiers qui étaient adhérents IDL chez Marion Maréchal, des colistiers qui étaient chez UDR, mon numéro 2, Stéphane Parrain, et chez Éric Ciotti. Et j'avais des colistiers qui ne s'étaient jamais encartés et qui ne voulaient pas. Parce que les municipales, je leur ai dit, c'est un projet qui est ultra local. Alors, on a évidemment des ponts communs avec la droite nationale. Et ça, je l'assume entièrement. Je viens du Rassemblement national et de chez Reconquête et de cette formation de la droite nationale patriote. Et en fait, c'est ce qui nous rassemble à Saint-Chamond. C'est cet amour du pays, cet amour. Et en fait, c'est une préparation pour 2027. Là, on a préparé l'alternance pour 2027. Et il faut vraiment garder ça à l'esprit. Donc, sans aucun regret, il faut avancer.
Ouais, mais on voit qu'effectivement, ces maires sans étiquette occupent quand même une grande partie du territoire français. Et beaucoup d'entre eux sont justement de ce camp national, même sans être affiliés.
La Loire, notamment.
Isabelle Surplis, vous vouliez créer un pôle d'excellence des métiers de l'industrie. Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous allez pouvoir avancer sur ce projet? Ou est-ce que, en étant conseillère municipale, vous craignez de ne pas avoir la force d'imposer justement ces idées, de vous heurter à beaucoup d'idéologies aussi en face? Parce qu'on le sait, vos projets pourraient être merveilleux, mais quand le poids de l'idéologie et des guerres de chapelle s'en mêlent, c'est parfois difficile d'avancer dans le bon sens.
Dans le bon sens, trop mignon, c'était le nom de ma liste. Alors, ce qui va se passer pendant 6 ans, c'est que je vais être force de proposition, comme je l'ai fait les 6 dernières années. Les 6 dernières années, j'ai remporté 2 victoires, notamment le parrainage d'un soldat arménien qui, par la suite, a été libéré. Aujourd'hui, on a eu un programme qui a fait 107 propositions, 107 mesures, 107 projets. Le but pendant 6 ans, pardon, excusez-moi, la pampille, le but pendant 6 ans, ça va être de faire avancer point par point. Le problème, c'est qu'on ne réglera rien s'il n'y a pas de fermeté sécuritaire, s'il n'y a pas de propreté dans les rues et s'il n'y a pas d'assainissement dans les finances. Alors moi, j'aime bien votre question parce que nous avons jusqu'au 30 avril 2026 pour installer le Conseil, voter le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire les intentions de la majorité sur les dépenses publiques, et voter le budget, sachant qu'entre les 2 dernières étapes, il doit y avoir 12 jours d'écart. Donc, ça va être extrêmement intense. Nous serons force de proposition et de toute façon, tous les projets que j'avais pour Saint-Chamond restent. D'ailleurs, c'est rigolo, j'avais relu le programme de 2020 et sans le savoir inconsciemment, je reste mais dans le même cadre, dans la même ligne. Donc, oui, le but, c'est qu'à 4, les 4 fantastiques, je les appelle parce qu'ils sont fous de me suivre. Ils sont tellement dévoués à la cause. C'est de remporter des victoires et de montrer qu'on n'est pas dans l'opposition pour s'opposer. Enfin, moi, cette opposition débile me fatigue. On est dans une opposition qui va être constructive et ambitieuse. Et c'est-à-dire que tout ce qu'ils refuseront, je le remettrai dans mon programme. Et j'ai dit à la presse hier, la campagne de 2033 commence maintenant. Alors, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ah bon, vous repartez? Je dis, mais évidemment, on n'a pas fait tout ça pour ça. Pour rien. Enfin, je veux dire, la vie, c'est construire et puis c'est avancer. Celui qui n'a pas ça en tête, c'est qu'il ment à ses électeurs.
Isabelle Surplis annonce à notre antenne être candidate pour les prochaines municipales. Merci beaucoup, Isabelle Surplis. Et puis surtout, voilà, on imagine que tous ces projets que vous allez proposer, eh bien, si jamais ils sont refusés par la majorité, vous ne manquerez pas de le faire savoir aux électeurs aussi, qu'ils sachent ce qui a été refusé en leur nom et encore une fois pour des guerres de chapelle. Donc on imagine que quand même tout le monde réussira à travailler ensemble et puis dans tous les cas, on suivra le résultat de vos travaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie aussi pour votre énergie et puis je vous souhaite bon courage.
J'ai la chance que j'ai de la voix ce matin.
Merci beaucoup Isabelle Surplis.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette matinée avec nous, chers auditeurs. Je vous le rappelle, la radio compte sur vos dons pour pouvoir continuer à émettre, mais même au-delà de ça, à se développer, à faire toujours plus de terrain, à vous offrir des reportages, des émissions de qualité. Donc n'hésitez pas à rejoindre la famille des donateurs.
Pour rejoindre la grande famille de Radio Courtoisie, la grande famille des donateurs, une seule adresse électronique, vous allez sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. radioscoutsfr pour faire un don en ligne. Vous pouvez aussi, de manière plus traditionnelle, nous envoyer un chèque à l'ordre de Radio Courtoisie au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, et vous pouvez défiscaliser ces dons, ce qui est quand même merveilleux. Quel sera le programme du jour, Franck ?
Restez bien avec nous dans quelques secondes et en direct, l'anglicisation dans tous ses états dans Français, mon beau souci de Marc Favre-Deschalins. À midi, le libre journal de la défense de Philippe Nicolardeau pour les limites de la puissance militaire américaine. 17h, culture et politique de Richard Haddad et Pierre-Henri. 17h30, restons courtois avec Pierre-Alexandre Bouclet pour un entretien avec Jean-Yves Le Gallou, les élections municipales et puis l'affaire Bilongo et le Détroit d'Ormuz. 19h30, le libre journal du lundi soir de François Costantini et à 21h30, la soirée musicale de Virginie avec les histoires cachées des chefs-d'œuvre.
Et nous, demain, on se retrouve à 7h et on reçoit notamment Emmanuel Razavi pour parler de l'Iran. Donc ne manquez pas ce rendez-vous et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée, à demain 7h.